Go, la revue presse JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer.
C'est pas sexy Sarah ça.
C'est pas sexy choucroute Sarah ça.
Nous sommes le jeudi 14 juin 2018 et c'est l'heure de la revue de presse JV. Bienvenue à toutes et tous, moi c'est Bruno Roca et donc on retrouve une formule un peu plus classique après ces journées de conférences, vous le savez, avec des auditeurs et je les remercie encore mille fois vraiment d'avoir pris sur leur temps de sommeil pour faire le débrief avec moi des principales confs. Alors on n'a pas pu tous les couvrir hein, puisque voilà, on n'est pas une équipe non plus de 25 hein. La conf Nintendo, la conf PlayStation, la conf Square Enix, Ubi, la conf Xbox, la conf Electronic Arts. Vous pouvez retrouver tout ça si ce n'a pas déjà été écouté par vos belles esgourdes sur le flux hein, sur ce même flux, des débriefs d'une heure à peu près sur la plupart des confs de cette E3. Mais l'E3 va ouvrir ses portes, l'E3 débute et donc fatalement la revue de presse JV reste à l'heure de l'E3 2018. J'essaierai chaque matin de vous apporter, comme d'habitude, les news les plus fraîches possibles, mais cette fois-ci, très souvent estampillées E3, bien sûr. Alors pour ceux qui ont écouté donc ces débriefs, vous le savez que normalement, via le hashtag E3RevueJV, d'ailleurs, hein, utilisez ce hashtag E3RevueJV pour me faire parvenir vos commentaires sur le salon, sur les jeux, bref, tout ce qui tourne autour de l'événement pour que je puisse rapporter vos propos dans l'émission et vous citer devant la France entière, oui, rien que ça. J'avais prévu donc de vous citer dans les émissions débrief également, mais suite à divers problèmes techniques, navigateur qui ne s'ouvre pas, j'en passe et des meilleurs, et ben du coup j'ai pas pu à chaque fois vous citer, donc je vais rattraper mon retard. Tout d'abord, Backlog, le podcast, un excellent podcast, un Backlog que je vous recommande chaudement et dont l'un des membres, Winston, a fait pas mal de débriefs avec nous. Donc Backlog, le podcast hein, qui tweet: bravo à la revue de presse JV et ses sexy auditeurs pour la couverture de l'événement, vivement l'an prochain. Merci à toute l'équipe de Backlog, on vous salue et donc je le répète, hein, on conseille chaudement ce podcast de haute qualité. Alors des commentaires un petit peu sur les annonces, Carnoct, hein, qui a également participé hein, à quelques débriefs, nous dit: pour moi Smash Bros Ultimate ce sera Day One, mais avec le fait qu'ils nous ont tout montré, des persos au stage en passant par les techniques, la surprise n'y est plus et c'est bien dommage. On en a parlé dans notre débrief Nintendo. Effectivement, c'était légèrement longuet, hein, le passage Smash Bros. Bref, Cédric nous dit: bonne conférence Nintendo, perso Super Smash Bros, je m'en cogne comme de l'an 40. Par contre, le Fire Emblem et Daemon X Machina, et il nous a fait un gros cœur derrière. Donc, c'est-à-dire que ces deux derniers-là, il les attend impatiemment. J'imagine. Stéphane Fanguin qui nous dit: Nintendo m'a fait un peu dormir aussi, j'ai du Metroid Prime, où es-tu? J'en ai marre de Smash Bros. Par contre Overcooked 2, ça vous a vraiment fait vibrer. Mario Party, sur la conf Sony hein, Stéphane Fanguin nous dit: la conf Sony qui fait plaisir à voir, des jeux qui donnent envie et d'autres qui éveillent la curiosité, donc c'est du tout bon. J'ai Alexis Chevalier concernant BGE2 qui nous dit: trop hâte pour ce jeu, un space opéra aussi énorme et qui veut autant prendre en compte sa communauté dans le processus créatif, ça fait plaise. Bref, merci à tous encore pour vos commentaires, n'hésitez pas, E3 Revue JV, le hashtag des champions, le hashtag de l'amour, et ce que je vous propose, eh ben, c'est d'attaquer l'émission tout de suite sans plus tarder. Allez, c'est y part comme disent les jeunes. C'est parti pour une brochette de news spéciale E3, et tout d'abord j'aimerais vous parler de la vidéo de gameplay de Resident Evil 2 Remake qui est disponible sur YouTube partout depuis hier. D'ailleurs certains journalistes s'en sont un peu plaints puisque c'est visiblement la démo qui leur a été présentée spécialement, rien que pour eux. Bah finalement ce segment se retrouve voilà, à la vue de tout le monde sur le net hein, et on ne va pas s'en plaindre, en tout cas pas nous, puisque la vidéo dure près d'un quart d'heure. Et elle est vraiment magnifique, hein. Donc on retrouve Léon dans le commissariat de Raccoon City. On voit un petit peu ses premiers pas dans le commissariat. Et pour ceux qui, comme moi, connaissent l'original par cœur, C'est assez intéressant de faire le comparo. En clair, tout a changé. Je rappelle que ça utilise le moteur de Resident Evil 7, mais ce n'est pas une vue à la première personne. Hein. On a toujours une vue à la troisième personne, avec une caméra rapprochée, hein, un petit qui rappelle Resident 4, hein, finalement. Même si lors de la visée, Léon m'a paru encore plus rapproché de l'écran qu'avant, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Comme on l'a déjà dit, hein, ce n'est pas un simple remake, hein, c'est vraiment le jeu qui est réinventé, c'est une relecture totale. Et franchement, mais j'en peux plus quand je vois ça, j'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer. Alors, toujours, seul petit bémol, hein, on en avait parlé dans l'émission débrief hein, de la conf PlayStation, c'est la tête de Léon. La tête de Léon, il a vraiment une tête bizarre. Moi, il me rappelle le héros de Team America, si vous connaissez un film par les créateurs de South Park, qui est d'ailleurs très drôle. Voilà, je trouve que ça fait un peu marionnette, hein, on reconnaît pas le Léon qu'on aime d'habitude, mais bon... À part ça, vraiment le reste, c'est de la bombe. Bref, c'est magnifique. Là, nous sommes dans le segment news. Hein, je vais pas en parler 3 heures, même si je pourrais, je crois. Bill Trinen, directeur marketing de Treehouse, une branche de Nintendo of America chargée de la localisation des jeux en Occident, a été interrogé par Pixel, hein, la rubrique Pixel Le Monde, bah, sur l'absence de Metroid Prime 4 lors de ce Nintendo Direct spécial E3, et donc Monsieur Trinen a déclaré « Metroid Prime 4 est toujours en développement, ce n'est pas comme si nous avions arrêté de travailler dessus ». Bon, ça a le mérite d'être clair. Et il aurait précisé également que Nintendo est revenu à un mode de communication privilégiant le court terme, c'est-à-dire que la firme n'évoquera ses licences phares pour les Noëls suivants une autre fois. Ceci dit, de son côté, sur Twitter, Daniel Hamad, un célèbre analyste de Nico Partners, a tweeté ceci. L'action Nintendo a perdu 7% après le showcase à l'E3. De nombreux analystes doutent que Nintendo puisse tenir ses objectifs de vente de hardware Switch après l'annonce du line-up 2018 porté par Smash et Pokémon. Alors on attendra de voir si la bourse aura raison. Là-dessus, concernant Smash Bros, le 1080p en mode TV et le 720p en mode portable et 60 FPS, quel que soit le mode, a été confirmé. Donc visiblement, Smash Bros Ultimate devrait assurer côté technique, en tout cas, c'est ce qu'on nous promet. En tout cas, ils sont très contents chez Nintendo, et aussi avec Fortnite, puisque Reggie Fils-Aimé a déclaré que Fortnite a été téléchargé plus de 2 millions de fois sur Switch, et ce, en moins de 24 heures. Un succès fulgurant, puisqu'il a été annoncé durant le Nintendo Direct, donc c'est quand même assez fou. Et toujours concernant Fortnite, pas besoin de portable pour le chat vocal, ça c'était confirmé. Et un représentant du studio Epic Games a également confirmé à GameSpot, cette fois-ci, que le mode Sauver le Monde n'était pas prévu sur Switch. Alors je rappelle que le mode Sauver le Monde, c'était le mode original de Fortnite qui vraiment n'avait pas très bien fonctionné. Ça, c'était avant effectivement que le mode Battle Royale arrive et qui mène Fortnite là où il est aujourd'hui. Enfin, terminons ces news E3 avec Cyberpunk 2077, hein, le jeu de CD Projekt qu'on attend tous comme des dingos qui avait été présenté à la conf Xbox. Alors on a appris quelques... détails supplémentaires, enfin des détails, même des infos très intéressantes, c'est-à-dire que le jeu opte pour une vue à la première personne, hein, contrairement aux The Witcher, hein, qui sont du même studio. Les cinématiques, par contre, quant à elles, seront en vue à la troisième personne, et on aura le choix entre la première personne et la troisième personne lorsqu'on se déplacera avec des véhicules volants ou des motos, etc. Le jeu est intégralement une expérience solo, merci CD Projekt. Pas de classe prédéfinie au début du jeu, tout du moins, et après le joueur peut évoluer comme il le souhaite, vers la classe voilà, qui l'attire le plus, et sachant que des combinaisons de classes sont également possibles. On a également appris qu'il y aura des armes à feu et des combats, des bastons de mêlée, mais les développeurs disent avoir retenu toute la leçon de The Witcher 3, puisque c'est vrai que certains critiquaient hein, le système de combat de Witcher 3. Bon, moi je le trouvais pas si scandaleux, il était chouette, mais c'est vrai que bon... on peut toujours faire mieux, effectivement. On a appris aussi que les armes sont réparties en 3 catégories. Vous avez les Power Weapons, les Tech Weapons et les Smart Weapons. Voilà, à voir. Et enfin, un cycle jour-nuit est présent dans le jeu. De toute façon, les premiers retours sont incroyables. Je vous invite notamment à aller sur GameCult où Gotos est littéralement ressorti, je pense, complètement ébahi. Il a déclaré que c'était la plus belle presse qu'il avait vue de sa vie. Enfin, il espère que le jeu tiendra ses promesses. Si on se fie aux autres sites français et aux sites étrangers, vraiment tous ceux qui se sont approchés de 2077 en sont sortis complètement ravis. Donc ça sent très bon. Petit petite news pour terminer hors E3, mais qui va faire plaisir aux fans de Tactical RPG, puisque la référence Disgaea, et plus précisément Disgaea 1 dans son édition complète, hein, avec l'accent, est désormais calée pour le 12 octobre en Europe, hein, c'est Nice America, ou NIS, hein, comme vous voulez, qu'il l'a annoncé. Donc je rappelle que c'est le portage de Disgaea Hour of Darkness pour la PS4 et la Switch. Les graphismes sont rehaussés, on en avait parlé hein, dans l'une des éditions du 100% Japon hein, lors d'un mercredi, il y a quelques semaines de cela. Mais il y a une bonne surprise pour nous autres, François, c'est que les textes seront en français. Voilà, en plus hein, du choix entre les voix japonaises ou anglaises, c'est-à-dire que on pourra se faire le jeu avec les voix jap, mais les textes français, ce qui est une première, et ça, c'est quand même magnifique, et j'ai envie de dire, il y a le beau geste. Naughty Dog revient sur la dernière présentation de The Last of Us Part 2. C'est JV.com qui nous parle de ça et qui nous dit, nous rappelle, et on en a parlé longuement lors du débrief avec les super auditeurs hein, lors du débrief de la conférence PlayStation, que Sony a montré effectivement un copieux aperçu de The Last of Us Part 2, suite attendue d'un jeu tant et tant acclamé. Et donc, ce nouvel extrait que nous avons vu lors de la conf Sony a autant marqué par sa qualité visuelle, par ses animations, mais aussi voilà, sur sa grande violence. Bref, le directeur créatif Neil Druckmann, le seul, l'unique, donc, a été interrogé. L'homme s'est en effet entretenu avec Kotaku sur le stand de PlayStation du Convention Center de Los Angeles et a notamment abordé les nombreuses animations montrées dans la dernière bande-annonce de gameplay qui ont pu faire douter sur le côté scripté de la prestation. Druckmann a expliqué que tout ce que nous avons vu se produit en jeu, toutefois à un rythme aléatoire. Pour les besoins de la démo, cela a été provoqué, chorégraphié, mais, dit-il, je le cite, ce sont tous de vrais systèmes dont les joueurs feront l'expérience en jouant au jeu. Entre parenthèses, hein, c'est ce que j'avais prédit grosso modo lors de mon report dans l'émission de débrief. On nous dit aussi qu'il a également commenté la grande dose de violence réaliste et organique qui caractérise cette séquence de jeu et a expliqué que l'idée est que, je cite, les joueurs se sentent dégoûtés par la violence qu'ils causent eux-mêmes. Alors ça, c'est quand même une démarche, un point de vue intéressant. Est-ce que c'est du bullshit marketing ou s'il y a vraiment une idée vraiment sincère derrière tout ça? C'est assez intéressant. Il nous dit également, je le cite à nouveau, « Nous créons un jeu qui traite du cycle de la violence et nous tenons un propos sur les actions violentes et l'impact qu'elles ont sur les personnages qui les commettent ainsi que leurs proches. Toute cette approche, hein, poursuit-il, est de traiter cela de manière aussi réaliste que possible. Quand vous poignardez quelqu'un, si vous regardez des vidéos de référence, et on les a, c'est dégoûtant et pas du tout aussi propre et net que dans la plupart des films et des jeux. Nous voulions que les joueurs ressentent cela. » Je ne sais même pas quoi rajouter après cette déclaration, puisque si elle est totalement sincère, il y a matière vraiment à débat. Vraiment, on ne peut ne pas être d'accord avec la démarche, mais il peut y avoir matière vraiment à débat. Si c'est du discours marketing juste pour justifier plus de sensationnalisme et de voilà, et d'hémoglobine à l'écran, là par contre, c'est, voilà, c'est un petit peu malhonnête, voire beaucoup. Alors je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Neil Druckmann qui... Par ailleurs, quelqu'un que je respecte énormément, vous le savez, hein, je suis très fan des productions de Naughty Dog. Bon, en tout cas, ces déclarations ont le mérite de nous questionner d'autant plus. N'hésitez pas à me dire, hein, via l'hashtag E3RevueJV sur le compte Twitter, hein, @RevueDePresseJV, ce que vous pensez, voilà, de ces déclarations. J'arrive pas, moi, personnellement, à savoir si c'est, voilà, si c'est de la flûte ou s'il y a une vraie démarche de sincérité derrière. À vous de me dire ce que vous en pensez à votre tour. Hollywood s'intéresse de plus en plus aux jeux vidéo. C'est Elijah Wood hein, qui a déclaré ça lors d'une interview qu'il a consacrée au journal 20 minutes. Elijah Wood hein, qui s'est déplacé à l'E3, je pense que ça n'a échappé à personne. Et donc l'article nous dit, en plein tournage de l'épisode 9 hein, de Star Wars, le réalisateur J.J. Abrams hein, a tout de même trouvé le temps de créer sa boîte de jeux vidéo Bat Robot Games en partenariat avec le géant chinois Tencent. Et oui, ça c'était tombé peu de temps avant l'E3 et ça reste quand même un sacré événement. Et donc 20 minutes nous dit, or il n'est ni le premier, hein, coucou George Lucas, ni le dernier. La jeune et toute puissante productrice Megan Ellison derrière les films de Paul Thomas Anderson, Catherine Bigelow est aussi à l'origine du jeu multi-récompensé What Remains of Edith Finch via Annapurna Interactive qui présentait 4 nouveaux titres à l'E3. Et de son côté, donc, Elijah Wood, et bah oui, la star du Seigneur des Anneaux, hein, lui était sur la scène d'Ubisoft, mais non pas en tant qu'acteur, hein, nous dit le papier, mais en tant que créateur et producteur de Transference, un jeu en réalité virtuelle d'exploration et de flip, né dans un esprit malade, hein, nous dit-on, prévu pour l'automne, sur One, PS4 et PC. Alors Elijah Wood, on en avait parlé dans notre débrief, hein, de la conf Ubisoft, l'acteur a été interviewé par 20 minutes, donc j'ai retiré quelques-unes, hein, de ses réponses, n'est-ce pas, et notamment sur le fait, hein, que le jeu vidéo commence une sorte de nouvelle relation avec Hollywood. Elijah Wood dit que maintenant que J.J. Abrams s'y met lui aussi, fatalement, tu te dis, alors je le cite, hein, tu te dis qu'il se passe vraiment quelque chose là, maintenant. Concernant Spectre Vision, il dit qu'ils n'ont jamais eu la volonté, en fait, hein, de créer une branche à part, hein, dédiée jeux vidéo, mais qu'ils ont toujours adoré les jeux vidéo, et plus précisément, hein, ici, la réalité virtuelle. Donc Elijah Wood dit, je cite, « Notre idée était d'explorer la VR comme un moyen d'expression et bien sûr d'explorer le genre, l'horreur, car c'est ce type de film que nous produisons. Nous avons rencontré Ubisoft pour savoir s'il était possible de faire quelque chose ensemble et nous avons échangé des idées jusqu'à ce que l'une s'impose. » Et en fait, le pitch est venu de la technologie elle-même, puisqu'il s'agit de mettre un casque sur sa tête et d'être transporté dans un monde digital, que ce soit pour les personnages et pour les joueurs. Alors, il faut savoir que Elijah Wood est crédité en tant que directeur créatif, et donc, le journaliste, hein, de 20 minutes lui demande un peu plus de précision à ce sujet. L'acteur répond à ceci en disant, je cite, « Il n'y a pas vraiment de hiérarchie sur le jeu, c'est un travail d'équipe. Si je n'ai pas écrit le jeu, j'étais là tout le temps. À chaque étape de développement, de production, les équipes d'Ubisoft et de Spectre Vision ont travaillé ensemble en toute liberté. Nous avions des réunions Skype hebdomadaires, nous sommes allés à Montréal, ils sont venus à Los Angeles. C'était vraiment une collaboration fructueuse. » Et concernant le choix d'aller sur l'horrifique, il dit « Les jeux d'horreur feront toujours partie, selon moi, de l'expérience VR. C'est comme visiter une maison hantée, faire un tour de train fantôme ou de tester une escape room, mais dans le confort et la sécurité de son salon. La VR crée cette réaction physique et émotionnelle immédiate. J'en ai des frissons, rien que d'en parler. » Voilà, c'était le petit instant people de l'émission. Sérieusement, non, je trouve ça très intéressant que des grands noms d'Hollywood aient ce type de démarche-là vers le jeu vidéo, et non pas l'adaptation complètement bâclée pour amasser un peu de brousouf, comme c'est très souvent le cas. Il y a vraiment là une volonté de créer vraiment du bon jeu. Alors on verra ce que ça va donner au final, mais c'est toujours très intéressant, hein. Et voilà, J.J. Abrams aussi, qui est mentionné en début de cet article, a déclaré être un gamer, et lui aussi veut investir dans le secteur du jeu vidéo. Écoutez, c'est très bien, vive le partage, faisons une ronde de l'amour et chantons la vie, le bonheur, les petits papillons, les petits oiseaux. Bref, attendons de voir tout ça. Je n'ai pas de casque VR, mais je dois dire que la petite vidéo, en tout cas de ce projet, avait une belle tronche, franchement, pendant la conf Ubisoft, donc à surveiller de très près, comme on dit dans le jargon. C'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais vous le savez, la maison est ouverte 7 jours sur 7, H24, PodCloud, Deezer, iTunes, enfin Apple Podcast, comme on dit. Bref, podcast et pas podcast. La fatigue est là, les cocos, la fatigue est là. Bref, n'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux, c'est super important, hein, notamment sur Twitter, @revuedepressejv. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs sur le compte Twitter. N'oubliez pas le hashtag E3RevueJV. Mais si ça vous dit de mettre des petites étoiles et des petits commentaires sur iTunes, je suis également preneur, hein, bien sûr. Et je vous souhaite donc bon courage pour la journée, panache et robustesse, quelle que soit la tâche qui vous attend. Et donc je vous dis à demain, toujours avec bon cœur, de bonne humeur. Bref, je ne suis qu'amour, vous le savez. Allez, très bonne journée à vous et à demain. Bye bye.